On a bien besoin de la lumière de la Vierge Marie, qu'elle nous éclaire. Et on va aussi se confier à Saint Joseph, prier pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Alors, surtout qu'aujourd'hui, on va parler du retour en force de l'occulte et des superstitions dans ce monde. On croyait que ce monde était loin de toutes les questions de superstition, de magie, d'occulte et d'occultisme. Eh bien, au contraire, on le voit revenir avec force dans le monde et dans notre culture. Alors, quelques phénomènes du plus offensif, du plus inoffensif plutôt, quoique, au plus luciférien de ces phénomènes. Premièrement, dans la littérature, le cinéma, etc., bon, on a l'habitude de voir des choses un peu magiques, Le Seigneur des Anneaux, qui est une œuvre chrétienne, ou Harry Potter, qui est une œuvre pour les enfants, ou Marvel, avec les super-héros qui sont capables de super-pouvoirs plus ou moins magiques. Bon, c'est plus ou moins inoffensif. Mais derrière arrive le phénomène de la magie, avec des gros guillemets, de la magie et de la technologie. Hein, on allume la lumière, on éteint, on peut se parler à des kilomètres de distance, l'intelligence artificielle, Internet, mesdames, le Thermomix qui vous permet de faire n'importe quelle recette de cuisine en étant pas des cordons bleus. Il y a quelque chose de... La technologie vient apporter quelque chose de magique dans ce monde. Nos grands-mères n'arrivaient même pas d'avoir ces instruments, et nos grands-pères encore moins. Magie de l'électricité. On a l'impression que tout est possible, que tout est réalisable, d'aller sur la Lune, etc. Que l'homme n'a pas de limite. Vous allez voir, c'est très important. Et puis, on enregistre cette vidéo pas loin de la fête de la Toussaint, mais qui est concurrencée aujourd'hui par des phénomènes comme Halloween. Même chez nous, même dans des pays chrétiens. On va avoir une sorte de regard sur la magie, sur la mort, sur l'horreur, les films d'horreur aussi, bon, qui se développent depuis des années et des années, la fascination pour tout ce qui est sombre, qui est caché, qui est de l'ordre de l'occulte, encore une fois. Et puis beaucoup de sites internet qui permettent à des jeunes d'avoir accès assez rapidement à des soi-disant informations ou des façons de faire. Le fameux jeu Charlie, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion personnellement, comme exorciste, de voir pratiquer une délivrance sur quelqu'un qui, par des jeux comme ça, avait été complètement envahi à un moment donné de sa vie, des années plus tard d'ailleurs, pas tellement, 5-6 ans plus tard, envahi par des choses mauvaises et très négatives, des désirs de suicide, etc., parce qu'elle avait des jeux impurs dans son adolescence sans le savoir. Aujourd'hui, le phénomène du bien-être aussi, le bien-être à tout prix, fait que même dans certains hôpitaux, on va vous proposer de téléphoner un rebouteux, un énergéticien ou quelqu'un, etc., qui va faire passer des verrues plantaires ou des zonas par des forces magnétiques ou plus ou moins magiques. Et puis la haine, vous voyez, j'avance dans des choses de plus en plus dark, la haine de la société, du système, chez certains jeunes et moins jeunes, mais surtout des jeunes en mal-être, créer un désir de chercher tout ce qu'il y a de plus sombre dans le dark web, le satanisme, etc. Alors d'où vient tout cela? D'où vient ce retour en force de l'occulte et des superstitions? D'abord, il y a un héritage historique d'une destruction de la foi, enfin, alors pas d'abord de la foi, mais de ce qui sous-tendait la foi. La foi chrétienne, elle est basée sur une observation de la réalité, hein, du monde tel qu'il est. Mais vont arriver, j'y reviendrai tout à l'heure, mais des maîtres, ce qu'on appelait les maîtres du soupçon. Les maîtres du soupçon vont découvrir des mécanismes dans la physique, dans le psychisme ou dans l'économie qui vont venir combattre, plutôt, qui vont prétendre être plus fortes que les vérités morales de la religion. Ça va être plus fort. Je vous donne un exemple, trois exemples. Marx, premier maître du soupçon, la société humaine. Pour nous, la société humaine, c'est une famille avec un créateur. Nous descendons d'Adam et Ève. Non, pour Marx, au contraire, la société humaine, c'est une jungle avec des forces et la lutte des classes, comme la lutte dans la jungle, la loi du plus fort. Et ceux qui vont amener la paix, ce sont ceux qui vont l'imposer par la force. Et la religion est devenue un opium. Donc, vous voyez, on va remplacer le rapport religieux au monde, à la société, par un rapport rationnel, en disant, ben, c'est comme dans la jungle, voilà, on va éliminer la religion. Nietzsche, là aussi, qui vient un peu après historiquement, lui, il va dire que Dieu est mort, de toute façon, et que puisque Dieu doit mourir, non pas mort sur la croix, comme nous on le dit. Il est mort, il est évacué de notre pensée, de la compréhension du monde, de la compréhension de la vie. Du coup, l'homme est seul, mais tout puissant. Hein, c'est la toute puissance de l'homme qui compte. L'homme est tout puissant, c'est lui qui fait tout. Donc, il n'y a pas de morale, pas de définition a priori de ce qui est bien. Chacun décide, ou plutôt chaque société décide de ce qui est bien. Il n'y a pas non plus de dogme, une définition a priori de l'essence, de la nature des choses. L'homme est Dieu et la religion, c'est pour les faibles. Bon. Troisième maître du soupçon, Freud, psychanalyse. Alors lui, pour lui, l'âme humaine n'est pas du tout, comme on le dit dans la religion, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. L'homme n'est pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'âme, au contraire, c'est une sorte de méli-mélo, d'écheveau, de passion, de pulsion, d'émotion, de sentiments, de refoulement, de crainte, de désir primaire, quasiment bestiaux. Et donc la religion est une névrose. C'est une sorte de maladie psychique que d'être religieux. Vous voyez, on va venir détruire le sentiment religieux en expliquant le monde par des choses très rationnelles, soi-disant. Et d'ailleurs, notez, très négative, hein, des sentiments bestiaux d'un côté, une toute-puissance qui écrase l'autre, une lutte des classes, etc. Du coup, tout ça va créer une sorte de déprime. Une déprime dans la société tout entière, la société occidentale, un effondrement des fondements de l'humanisme. L'humanisme, c'est quoi ? C'est croire en l'homme. Hein. C'est l'homme, voilà, c'est un peu l'un des fondements de l'humanisme, le marxisme, Nietzsche, la psychanalyse, et bien d'autres choses, hein, l'humanisme. L'homme qui décide de tout. Mais en même temps, l'homme a échoué. L'homme a échoué. Il va produire quoi, l'homme, notamment au XXe siècle ? Des violences. Il y a beaucoup de violences dans le monde. Il n'y a jamais eu autant de violence. On parle des temps barbares, on parle des temps du Moyen-Âge, etc., des guerres de religion. Mais le XXe siècle, le XXIe siècle aussi a démarré, c'est le siècle qui a produit le plus de violence et d'horreur de tous les siècles passés. Plus que tous les siècles passés réunis. Avec le marxisme, 37 millions de morts, le nazisme, etc., plus de 100 millions de personnes éliminées par d'autres êtres humains. Violence aussi économique, avec le capitalisme qui écrase tout, violence écologique, avec la destruction de la planète, réchauffement climatique, etc. Donc, ça crée une sorte de déception et même une déprime. Ce rationnel athée, c'est-à-dire on ne fait confiance qu'à la raison humaine, il n'y a pas de Dieu, mais du coup, on ne croit pas en Dieu. Mais du coup, on se rend compte que l'homme, il fait que des bêtises. Il a cassé son jouet, il casse l'humanité, il casse la relation homme-femme, il casse sa relation avec lui-même, il a tout cassé, comme à la Genèse d'ailleurs, dans la Bible, hein, petite parenthèse. Et donc, du coup, cette déception va produire une sorte de recherche irrationnelle, une sorte de rêve, hein, d'une magie, d'un monde magique, un monde merveilleux. Hein. Et on va se délecter, hein, des péchés qui s'appellent la délectation morose. La délectation morose, c'est un péché dans lequel on rêve. On se fait son film. Eh bien, et ce rêve va être le terreau de ce retour en force de l'occulte et des superstitions. Alors, rappelez-vous, pour ceux qui ont vu le film Matrix, hein, la pilule bleue ou la pilule rouge. À un moment dans le film, on sait que les hommes sont soit dans une réalité qui est terrible, ils vivent sous terre, ils ont peur des machines, et puis de l'autre côté, il y a une réalité de rêve, où chaque homme est branché sur une matrice, et ce sont des machines qui font rêver des hommes qui, en fait, sont couchés dans des sortes de cellules. Bon. Eh bien, à un moment donné, on propose à un gars, veux-tu la pilule bleue, celle du rêve, ou la pilule rouge, celle de la réalité? Et comme la réalité est triste, voilà. Alors, beaucoup de personnes préfèrent la pilule rouge. Enfin, elle existe dans le film, mais dans la réalité, c'est quoi? Eh bien, ce sont des dominations, par exemple, lorsque les passions charnelles, les péchés capitaux, la gourmandise, l'alcool, la drogue, la luxure, le stup, la débauche, la pornographie, la cupidité, la soif du pouvoir, la colère, la violence, la jalousie, le mauvais œil, hein, la jalousie sur l'autre, hein, la tristesse, l'orgueil, quand tout ça envahit le cœur d'un homme, c'est parfois plus simple de dire ben, « pourquoi pas céder à la passion qui est dans mon cœur ?» plutôt que de résister, pour quelle raison je vais résister? Et donc ça va me faire vivre dans un monde de passion, mais qui est plus facile. On va choisir la facilité. Et puis, il y a des pratiques à risque. Certaines relations avec des personnes, certaines retraites spirituelles. certains massages, certaines thérapies. Alors je ne dis pas que ce sont toutes les thérapies, mais ce sont des pratiques à risque. Certains arts martiaux, certaines formes de yoga, certaines emprises psychologiques, certaines hypnoses, certains trucs comme la sophrologie, les massages. Je ne dis pas que c'est tout le temps mauvais, que c'est mauvais. Mais ce sont des pratiques où, par la recherche de bien-être, on va quand même livrer son âme. Et des personnes qui pratiquent ce genre de choses vont, à un moment donné, pouvoir les détourner et les utiliser pour capter mon âme. Surtout si mon âme n'attend que ça, ou la personne n'attend que ça, par faiblesse et par désir. Vous voyez, et donc, on entre au fur et à mesure dans un monde de recherche de bien-être, de fuite, de pilule rouge, vous voyez. Voilà. Ensuite, il y a une culture magique qui va être produite par Internet, par les films, par des musiques, par des bandes dessinées très importantes, certains mangas, certains, je dis bien certains, attention, je ne suis pas en train de tout condamner avec des jeux vidéo. Des jeux vidéo, dans un jeu vidéo, c'est magique, hein. Vous vous faites tuer dans un jeu vidéo, mais vous ressuscitez 30 secondes après. Quand on vit là-dedans pendant des heures, vous voyez, cette violence, etc., ben, ça fait vivre une forme de drogue. Une forme de drogue, on est dans la pilule rouge. On est manipulable et manipulé dans un monde qui est déjà sous une forme d'occulte et de superstition. Hein? Donc, des sites internet, je l'ai dit, etc. Donc, il y a une culture magique et qui va parfois, chez des personnes qui ont besoin, parce qu'ils ont des passions, des haines, etc., ces personnes vont vouloir rechercher des imprécations, des incantations, des malédictions, des blasphèmes. Et ils vont produire cela dans un mode magique, pour pouvoir se calmer soi-même au départ. Utiliser des petites poupées avec des machins, des choses comme ça. Au départ, c'est pour se calmer. On va même leur proposer cela. Mais ça va produire des effets en eux. Des effets désastreux dans la société. Autre étape, l'adhésion à des spiritualités hétérodoxes. Des choses qui ne sont pas conformes à ce que Jésus veut pour l'humanité. Et pas simplement pour les chrétiens. Vous voyez, les chrétiens, c'est... Oui, c'est sûr. Hein. Les chrétiens, c'est Jésus. Il n'y a pas de doute. Les chrétiens, c'est Jésus qui apporte. Mais les autres hommes aussi, le bien vient du Christ. L'évangile, il n'est pas réservé aux chrétiens. C'est bien les autres hommes aussi qui ont besoin de la vérité. Or, ces personnes-là vont choisir par ignorance. Et il ne faut certainement pas juger. Je me rappelle une fois, je me moquais de personnes qui étaient, quand j'habitais à la Sainte-Baume, qui étaient auprès des arbres, et qui étaient comme ça, qui cherchaient l'énergie des arbres, etc. Oh, il y a une énergie. Bon, moi, je dis, moi, je fais la même chose avec mon oreiller l'après-midi, ça s'appelle la sieste. Il y a une énergie, hein, bon. Ok, alors je me moquais comme ça. Et il y a une fille qui était devant moi, et qui venait d'être baptisée, et qui me dit, mais David, ne te moque pas. Moi, j'étais parmi ces gens-là. Je cherchais la vérité. Je cherchais des énergies, je courais dans les forêts, etc. Les soirs de pleine lune, on faisait des cultes, etc. Parce que les gens recherchent. Puisqu'on leur a dit que seule la raison humaine, mais ils n'ont pas trouvé la réponse à leurs grandes questions. La vie est trop dure, il y a trop de violence dans les couples, dans les familles, dans les quartiers, dans la société, dans les milieux professionnels, à l'école. Alors on va chercher ailleurs des solutions au bien-être. On va chercher l'énergie. Parce qu'on est en psychasthénie, on est en train de perdre de l'énergie intérieure. Et ces mêmes personnes vont aller chercher donc superstition, numérologie, astrologie, l'horoscope, très dangereux. C'est une façon de croire à un déterminisme, comme si parce que les étoiles ont bougé, je vais changer de vie. Ça n'existe pas, c'est contraire à la foi chrétienne. Tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique, énergéticien, les spiritualités comme le Reiki, les mouvements comme le New Age, les rosicruciens, les loges, l'écologie mystique, le chamanisme, le druidisme, où on va chercher une solution et une réponse. Parce que derrière, on revient toujours à la même origine, il y a une sorte de creux qu'on a, que la société, le mouvement, les grands mouvements philosophiques, et là, qu'on retrouve dans les médias, dans les films de façon vulgarisée, mais finalement, on va dire, ben non, il n'y a pas de Dieu pour trouver une solution, il n'y a rien dessus, il n'y a que l'homme. Alors du coup, et comme l'homme ne répond pas à toutes les questions, et même, il pose beaucoup de questions, l'homme lui-même, et fait beaucoup de bêtises, on va aller chercher ailleurs. Dans des mouvements, encore une fois, la pilule rouge. Ou plutôt la pilule bleue. La pilule rouge dans Matrix, c'est celle qui donne la vérité, mais qui est triste, qui est dure, qui est violente. Et la pilule bleue, celle du rêve. On va chercher le rêve. Si on avance encore, ça va, vous supportez un peu, hein, si on avance encore un peu d'un cran, Il y a des personnes qui vont chercher dans des objets magiques ou ésotériques, qui vont chercher des solutions. Alors, le plomb, le pendule, les ouijas, les bains, des objets envoûtés, gris-gris, talismans, etc. Malheureusement aussi, alors c'est pas non plus tout ce que je veux dire, mais les tatouages et certains piercings, qui sont des formes de sacrifice, au sens de don de soi. Et je le sais aussi, parce qu'en tant qu'exorciste, nous avons dû déjà plusieurs fois prier pour la délivrance de personnes qui avaient livré leur âme. Parce que graver quelque chose sur son corps de façon définitive, c'est pas systématique non plus. Faut pas diaboliser. C'est pas ce que je suis en train de faire. C'est de montrer que beaucoup de personnes, par ces actes-là, la plupart des dames, on les aurait percées, c'est pas du tout le cas, vous voyez. Où j'ai connu une religieuse qui avait un gros tatouage d'une croix parce qu'elle vivait, était née dans un pays musulman et ses parents avaient tatoué une croix sur son bras pour bien montrer qu'elle appartenait au Christ. Mais vous voyez, justement, les tatouages, on les fait sur les animaux pour montrer à qui ils appartiennent. Donc, il y a certains tatouages qui peuvent être une forme de sacrifice, j'ai bien certains qui peuvent être, mais il faut faire attention. Et donc, il y a, c'est une façon aussi d'entrer dans ce monde d'une autre appartenance. Bon. Et les pratiques ésotériques, alors là, bon, ça y est, on est dans... Lorsque quelqu'un a livré son âme à ses pratiques occultes et de superstition, donc les rituels sataniques, idolâtriques, l'occultisme, spiritisme, divination, voyance, tout ce qu'ils ont fait chez nous, les quimbois, les vaudous, etc., la sorcellerie, noire ou blanche, c'est la même chose, ça mène au même endroit, c'est-à-dire à une âme qui se livre à une autre réalité. Alors au départ, vous voyez, c'est très rationnel, et je vais vous faire passer le chemin. Je vais vous décrire de façon systématique une réalité qui n'est pas, qui est diffuse et même confuse. Mais on est parti du matérialisme, voilà, il n'y a pas de Dieu, il n'y a que l'homme, il n'y a que la raison, il n'y a que la science, la technologie, la lumière, l'électricité, ok. Mais du coup, pour avoir la paix comme une autruche, elle met sa tête dans le trou. Eh bien, moi je préfère dire il n'y a pas de Dieu. C'est plus simple. Ça, c'est notre société, c'est l'État français, la laïcité à la française, on ne se pose pas de questions. Il n'y a pas de Dieu. Du coup, à force de... Comme j'ai besoin d'être tranquille, parce que s'il y a un Dieu, il faut que je me pose des questions sur ce que je suis, ce qu'est l'homme, sur le bien, sur le mal, sur l'amour. Mais s'il n'y a pas de Dieu, je suis tranquille, je jouis, mangeons et buvons, dit la parole de Dieu, car demain nous mourrons. Tranquille. Donc du coup... Je finis par détester ce qu'on appelle le dogmatisme. Quand on dit que quelqu'un est dogmatique aujourd'hui, c'est une condamnation. Alors que moi, je suis dogmatique. Je crois qu'il y a une réalité. Alors, le dogmatisme, on va rejeter les personnes qui sont croyants. Mais, ça n'a qu'un pas, on va passer à l'athéisme. On va rejeter, non pas simplement les personnes qui sont croyantes, ou qui croient en une vérité, en disant, si tu as une vérité, c'est que moi, je suis dans le faux. On va rejeter à ce moment-là la religion et Dieu lui-même. Et ça s'appelle l'athéisme. L'athée, c'est quelqu'un qui croit. Il croit qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'a aucune preuve. Mais il croit qu'il n'y a pas de Dieu. Comme disait un de mes amis, c'est une blague que j'ai déjà racontée, pas une blague, une réalité. Il y a un professeur qui lui dit une fois en terminale, « Mais où est Dieu? Où est Dieu ?» Il a répondu, « Oui, monsieur, mais où n'est pas Dieu ?» Et l'autre n'a pas plus de preuves. Voilà. Alors que nous, on n'a pas de preuves, mais on a des signes de l'amour de Dieu. Bon. Alors, vous voyez, on est passé de quelqu'un qui est matérialiste à quelqu'un qui a une foi, qui dit « il n'y a pas de Dieu » et qui déteste, qui va finir par détester. Le seul problème, qui détestait Dieu, détestait la religion. Le seul problème, mes enfants, c'est qu'à ce moment-là, les grandes questions sur la vie, la mort, l'origine, le bien, le mal, le malheur, le bonheur, comment je fais pour y répondre? Comment je fais pour répondre à ces questions-là? Sinon, en imposant des idéologies par la violence. Alors ces personnes-là vont adhérer à des symbolismes, des symboles, des sortes de symboles, en disant, ah oui, le symbole de ceci, on va rechercher dans la nature des signes, des énergies, etc. Et puis ensuite, ces symboles vont devenir de plus en plus ésotériques, c'est-à-dire des choses qui sont de plus en plus, entre guillemets, magiques, religieuses. Et à la fin, on finit par se soumettre, par haïr ceux qui se soumettent à Dieu, à la Providence, et par se soumettre à un autre, qui a un nom, qui s'appelle le diable. Et on est passé de quelqu'un qui est purement matérialiste, alors c'est pas quelqu'un, c'est toute une société, tout ça, voilà, qui avance dans ce chemin. Vous voyez, je vous décris un chemin un peu systématique, alors qu'il est beaucoup plus confus que ça dans la réalité. Certains ne vont pas jusque-là, Dieu merci. C'est juste une recherche, comme cette fille qui cherchait l'énergie sur les arbres, elle recherchait le Christ, elle l'a trouvé. Et elle était splendide, elle m'a dit avant, ma vie était nulle, aujourd'hui ma vie elle est splendide. Je ne vais pas mieux, je n'ai pas trouvé plus de travail, etc. Mais maintenant, j'ai une réponse. J'ai rencontré quelqu'un. Et c'est là que la foi chrétienne est totalement différente. La foi chrétienne, ce n'est pas une magie de plus, comme certains voulaient nous faire croire. Ça, c'est une grande idée de la théorie franc-maçonne de la Révolution française et avant, disant que la foi, finalement, c'est une sorte de croyance personnelle. Non, la foi chrétienne, c'est une rencontre rationnelle, intelligente. Plus on est intelligent, plus on a la foi. Et plus on a la foi, plus on est intelligent. Plus on a envie de connaître. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup la foi. Donc, voilà. À travers, vous aussi, j'espère, à travers la grandeur, dit la sagesse, livre de la sagesse, chapitre 13, versets 5 et à 9. À travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur hauteur. Vous voyez, à travers la science ne s'oppose pas à la foi, au contraire. À travers la grandeur, la beauté des créatures, on voit l'auteur des créatures. On est poussé, on a poussé la science à un degré tel qu'on est capable d'avoir une idée sur le cours éternel des choses. Et on peut découvrir celui qui en est le maître. Si on va jusqu'au bout, beaucoup de science, au contraire, donne la foi. Un peu de science peut enlever la foi. On dit, ah oui, mais tu croyais que le tonnerre, c'était Dieu qui était fâché, mais c'est pas vrai, c'est une décharge électrique. C'est vrai. Bon, c'est une décharge électrique. Mais par contre, plus on réfléchit sur la science, plus on grandit, plus on découvre la foi. Alors, on va revenir, comme d'habitude, à Benoît XVI, parce que c'est lui qui a la solution dans ce genre de questions. Voilà un discours qu'il tient. Je vais vous le lire, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer d'expliquer s'il me reste un peu de temps. Les chrétiens des premiers siècles ont accueilli la foi non pas comme issue de désirs insatisfaits. Ta foi, c'est comme la magie. Je vais vous montrer la magie, l'occulte, les superstitions, ça vient de désirs humains insatisfaits. Ce n'est pas le cas de la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est la dissipation du brouillard des religions mythologiques avec Zeus, etc., tous les dieux grecs. Les premiers chrétiens ont dit au contraire, enfin on peut rationnellement, avec tout ce que nous sommes, croire en Dieu, la découverte d'un Dieu qui est une raison créatrice et une raison amour. On comprend Dieu, voilà ce que... On peut comprendre Dieu, c'est pas une sorte de mythe, Dieu, c'est une compréhension. C'est pourquoi la raison qui s'interroge sur Dieu, l'intelligence, sur le véritable sens de ce qu'est l'être humain, n'est pas une absence de religion, mais fait partie de la foi. C'est important. Pour nos jeunes, pour nous-mêmes, de comprendre que notre foi, elle repose sur quelque chose de solide, sur notre intelligence. Plus on est intelligent, encore une fois, plus on a la foi. Et plus on a la foi, plus on est intelligent. Plus on essaie de rechercher, intelligence, ça ne veut pas dire avoir de bonnes notes en classe. Intelligence, ça veut dire avoir le désir de connaître et de comprendre. Vous êtes peut-être marié, vous avez des gens que vous aimez, des enfants, etc. Plus vous aimez quelqu'un, plus vous avez envie de connaître cette personne. Plus vous connaissez cette personne, plus vous l'aimez. Ben, c'est la même chose avec la foi en Dieu. Donc, contrairement aux philosophies d'avant et aux religions, où la religion et la philosophie étaient mélangées, on ne savait pas très bien, la foi chrétienne est la vraie philosophie. C'est la vraie philosophie des Lumières et de la lumière. C'est la foi chrétienne. C'est elle qui donne la sagesse et la lumière. Par rapport aux autres religions qui sont des religions mythiques de l'époque. Et un grand saint, saint Thomas d'Aquin, a mis en lumière l'autonomie de la philosophie, au sens où la philosophie ouvre à un moment donné, il faut réfléchir en tant qu'homme, et non pas de façon superstitieuse, pour avoir la foi, pour obtenir la foi. Le christianisme donc, doit lutter pour avoir ce caractère d'intelligence, de mieux connaître, de connaître les Écritures, mais pas de façon superstitieuse. Vous voyez, c'est pas comme l'horoscope d'un côté, puis la Bible de l'autre, et puis tu choisis. Non, la Bible est rationnelle, l'horoscope est irrationnel. Parce que les étoiles ont changé, que tu vas rencontrer le grand amour, même si tu en rêves. Donc, à partir de mes questions existentielles, eh bien, je commence à rechercher autour de moi des réponses, avec mon intelligence. Et à un moment donné, je vais m'ouvrir à quelque chose qui est au-delà du réel, au-delà de la physique, comme on dit métaphysique, au-delà de tout. Et à partir de ça, mon cœur va être ouvert à la foi. Et quand j'ai la foi, même chose, je commence à regarder Dieu, puis je regarde le monde, et je comprends davantage le monde. Et je suis libéré de tout occulte et de toute superstition. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Les catéchèses de l'évêque, on continue aujourd'hui, on est à Saint-Joseph, à la paroisse de Saint-Joseph. Donc nous continuons sur le thème, le retour en force de l'occulte et des superstitions dans le grand thème qui est les lumières du Christ dans ce monde qui passe. Comment la foi chrétienne illumine le monde qui passe? On va commencer avec des questions de notre petit public bien-aimé. Qui pose la première question?
Alors vous en avez parlé en préambule, donc ma question c'est comment reconnaître et éviter les pratiques qui nous sont adressés en fait dans notre quotidien, chants, vidéos, images, réseaux sociaux, qu'on a vraiment au quotidien.
Alors, on va étendre la question, si tu permets. C'est pas non seulement comment nous éviter, parce qu'on est plutôt d'abord nous, on est protégés. Comment l'éviter pour nos proches, nos enfants, etc. Enfin, en réalité, on peut pas. C'est comme si on essaie d'éviter le virus de la grippe, on essaie d'éviter le virus du Covid. On peut pas. On peut pas dans notre société, ni dans la nôtre. Qui est un petit peu pire, je pense, parce que on est atteint par la communication, on est atteint par les portables, jusque dans nos chambres. Tu crois que ton enfant est tranquillement protégé, c'est pas vrai aujourd'hui, voilà. Bon, donc à moins de vivre dans une cabane au fin fond de la montagne, et même là, je ne suis pas absolument certain. Donc cette protection, elle ne sera pas extérieure a priori, elle sera a posteriori comme un vaccin que l'on prend qui nous protège parce qu'on a un anticorps. Et cet anticorps, précisément, c'est ce que j'essaie de développer, c'est la foi. La foi, parce que la foi, mais elle n'est pas magique non plus, la foi, c'est surtout ça le souci, la foi entend aussi qu'elle est une intelligence, une compréhension. C'est ce qu'on est en train de faire dans ces catéchèses, on est en train de scruter les signes des temps. Donc on essaie de comprendre, du coup on fait attention. On fait attention à ne pas être imprudent. Je prends l'exemple aussi de la maladie. Mais une fois qu'on peut choper un virus, bon, ben on peut choper aussi un virus parce que d'abord le malin est malin, et donc on peut choper le virus parce qu'on a on a ouvert son cœur d'une façon ou d'une autre, on a ouvert une porte ou quelqu'un a ouvert une porte pour nous, mais encore faut-il que nous on accepte quand même à un moment donné. Donc l'Église justement a les moyens de nous débarrasser de ce qui nous touche, mais nous-mêmes aussi, par l'intelligence, on peut comprendre les choses. Et le fait même de les comprendre, la lumière chasse les ténèbres. On ne chasse pas les ténèbres à coups de balai. Quand on est en but avec quelque chose d'obscurantiste, d'occulte, etc., on pourrait se dire on va lutter contre l'occulte. Non, il suffit de mettre de la lumière et à ce moment-là, on n'a plus de. Si on met de la lumière, on n'a plus de ténèbres. Donc notre foi chrétienne, en tant qu'une intelligence de scruter les signes des temps, de comprendre les choses, d'avoir ce recul, il faut surtout pas tomber ni dans la méfiance. Ni dans la crainte, la peur de tout à chaque instant. Parce que, ah oui, ça, je touche pas à un tel objet. C'est l'inverse. Le chrétien, justement, n'a peur de rien. Il n'a pas peur. Surtout, nous chrétiens, on n'a pas peur de se confronter. Mais on va pas faire exprès d'y aller non plus. On va pas faire exprès. Donne un exemple qui m'a beaucoup marqué d'un de mes amis qui est prêtre. Et qui un jour, voilà, il a voulu, on l'a emmené voir un truc vaudou, etc. Ben quand il est allé, mais non, c'est culturel, il était dans un pays où ça se pratique, que je ne nommerai pas, mais c'est facile à trouver. C'est culturel. Et quand il est arrivé là, ben la cérémonie n'a jamais commencé. Ça n'a jamais commencé. C'est quand il est parti, ses amis sont restés, que ça a commencé. C'est intéressant, parce que lui-même, il se dit, bah, ce truc culturel, Mounka, je veux tambour, et puis qu'à danser. Les gens jouent du tambour, et puis ils dansent. Oh, c'est plus ou moins religieux. Eh ben non. Tant que le prêtre était là, ça n'a pas commencé. Et c'est quand les parties, et même le gars qui était là, qui dirigeait ça, a dit, Nyamoun, ici, il y a quelqu'un ici qui nous empêche de faire commencer la cérémonie. C'est quand les parties, clac, ses amis lui ont dit, tu étais parti, tu as fermé la porte, tu es parti. C'était une sorte de cour, etc., hein, voilà. Quand tu es parti, dès que les choses ont commencé à changer dans l'ambiance, tac, tac, et la cérémonie a pu commencer. Donc nous, comme chrétiens, on peut, bon, il y a la connaissance des choses, mais il faut pas vivre non plus dans la peur, par contre. Question suivante.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure de bien-être, etc. On cherche peut-être tout ce qui est besoin de signes, besoin de choses tangibles. Est-ce que ce retour en fait des superstitions n'est pas un signe d'un vide quelconque spirituel?
Ah, c'est certain. Et surtout, le fait de ne pas avoir éduqué les jeunes, et toute une génération finalement, d'abord les parents, mais aussi l'Église. L'Église n'a pas enseigné la foi chrétienne comme une expérience spirituelle, comme la rencontre avec le Christ. Donc dès qu'on a commencé à enseigner la foi chrétienne comme une morale, avec du permis, du défendu, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Mais enfin, le monde nous propose, alors en plus comme la dimension morale de la société s'est effondrée, parce qu'avant c'était mal de faire certaines pratiques, aujourd'hui, tout le monde, au contraire, c'est même bien vu. Alors, du coup, il y a une recherche, quasi, une soif quasi ésotérique, quasi mystique. Des plaisirs ou du bien-être ou d'être un peu au-dessus en connaissant des choses que les autres ne connaissent pas. C'est ça être ésotérique, hein. L'ésotérisme ou la gnose, c'est rechercher des connaissances que les autres n'ont pas. Donc ça me met au-dessus. Donc il y a des mystères. Alors que la foi chrétienne, au contraire, elle est totalement exotérique. C'est-à-dire que tout le monde a accès. La Bible est le livre le plus répandu de toute la terre. Il suffit d'appuyer sur Internet ou d'entrer dans une église pour voir comment une messe se passe. La foi chrétienne n'est jamais cachée. Tout est révélé. Au contraire, Dieu a tout est dans la lumière. Donc, au contraire, le monde essaie de rechercher parce qu'il y a un manque d'éducation, il y a une déception profonde par rapport à la science qui était censée être une lumière. Rappelez-vous, les philosophies des Lumières. La philosophie des Lumières était censée tout éclairer. La science, l'économie, la politique étaient censées donner l'éclairage sur tout ce que les hommes vivent. Et en fait, non. Il y a plein de questions auxquelles on ne répond pas. Alors, les enfants, en particulier les adolescents, on nourrit leur corps, on nourrit leur désir de plaisir ou de détente, on nourrit leur intelligence de plein de connaissances futiles. On connaît le dernier mari de Kim Kardashian ou je ne sais pas quoi. Mais par contre, les connaissances et les questions existentielles, essentielles, eh bien, on ne les nourrit pas. Sur la vie, sur la mort, sur le bien et sur le mal, sur le bonheur et le malheur, on leur donne finalement ce que je prétends dans cette catéchèse, c'est qu'on leur donne une réponse simpliste en leur disant ce qui va te rendre heureux, c'est d'avoir un bon travail, de faire le bien, à la limite, allez, la bonne réponse. Quand on ne leur dit pas ce qui va te rendre heureux, c'est de fumer ceci ou de, etc. Bon, voilà. Mais comme ça ne marche pas, là, ce truc-là, ça ne marche pas, in fine. À la fin, ça ne marche pas. C'est pas ça qui rend heureux. Bien sûr, c'est mieux d'être quelqu'un de bien, d'avoir un bon travail, c'est sûr. Mais c'est pas ça qui rend heureux. Donc, on va rechercher dans ce qu'on ne nous a pas dit. On ne nous dit pas tout. Et on va rechercher, et c'est là que les milieux de l'occulte et des superstitions font recette. Surtout qu'il y a du fric derrière. Il y a du fric, il y a de l'exploitation de l'homme par l'homme. Il y a du pouvoir. Et donc, ces milieux vont se développer. Et en accusant l'Église, d'ailleurs, d'avoir fait pareil, ce qui est faux. En accusant l'Église d'avoir utilisé, d'où les maîtres du soupçon que j'ai cités au début de la catéchèse, hein, la religion comme opium, la religion comme faiblesse, la religion comme névrose. Non, regardez, la religion, etc. Or, cette recherche, d'ailleurs, moi, je ne suis pas d'accord lorsque je vois les hommes chercher dans des drogues, quelles qu'elles soient, hein, ésotérisme, les drogues fumées, machin, etc. Simplement, je regrette que nous n'avons pas éduqué et l'Église n'a pas toujours fait passer l'expérience. La messe, c'est quoi? C'est juste pour faire bien qu'on va à la messe ou bien on va à la rencontre du Christ vivant qui a donné son corps et son sang pour moi. C'est mystique, c'est un miracle eucharistique. Carlo Acutis nous a montré, et pas le seul, mais que la messe est un miracle. Parce que combien de fidèles vont à la messe en disant que c'est un miracle? Combien de fidèles reçoivent le corps du Christ en disant « mais en fait, c'est le corps du Christ que je reçois ». C'est pas pour faire semblant, c'est pas un symbolisme. Je suis passé un peu rapidement tout à l'heure. C'est pas du symbole, c'est du vrai. Et là, par contre, on va rentrer dans justement à nous de répondre, pas de répondre, mais d'être, de grandir à cause de cette question qui nous est posée dans une religion plus mystique. Question suivante.
Alors, c'est vrai que dans les routes fortes de France, souvent avant, on distribuait des petites feuilles pour dire qu'il y avait des sorciers, etc., qui voulaient nous faire vivre correctement. Donc, pensez-vous que la montée de l'ésotérisme et des pratiques spirituelles alternatives traduit une soif de sens ou une perte de repères spirituels? Parce que maintenant, on les voit beaucoup sur Internet ou à la télé.
Évidemment, mais surtout, ça traduit aussi de l'autre côté business. Et s'il y avait seulement l'ésotérisme, aussi certaines formes de religion, un peu mieux, si j'ose dire, qui traduisent aussi une forme de business. Il y a aussi certains métiers. Et vous voyez, quand l'Église, je prends l'exemple de l'accompagnement spirituel, de l'écoute en Église. Lorsque nous n'offrons pas aux fidèles, les uns les autres, une certaine écoute mutuelle. Quelqu'un peut aller à la messe, on est à Saint-Joseph, l'Église est grande. Dans le fond, la personne a quelque chose à partager, elle a une souffrance. Si on n'offre pas l'écoute, cette personne a besoin. Parce qu'aujourd'hui, en plus, la société, et c'est peut-être bien, ça c'est vraiment pas un jugement, enfin le reste non plus, estime que quand tu souffres, c'est que tu as échoué ta vie, même si tu as tout réussi. Donc, et puis c'est la faute des autres. C'est la faute de l'État, c'est la faute du président de la République, c'est la faute de tout le monde. Donc, si l'Église n'offre pas un réconfort humain, si venir à la messe, c'est pas une bonne expérience aussi, les hommes et les femmes vont chercher ailleurs. Alors, c'est pas simplement la messe, c'est le groupe avec lequel, si je suis dans ma chorale. Mais si je viens tout seul, je n'ai aucune communauté, je viens juste à la messe, mais ça suffit pas. À un moment donné, il faut avoir, c'est les cinq essentiels, il faut avoir une communauté où j'ai aussi un réconfort humain et spirituel. Oui, il y a une soif. La soif, elle est immense. C'est ce que les hommes ont appelé la postmodernité. Après la bombe atomique, les échecs, les morts du XXe siècle, les peurs, les épidémies aujourd'hui du XXIe siècle, les guerres, l'être humain se dit, mais on a tout réussi techniquement. Encore une fois, on a réussi à faire un thermomix, quoi. Donc, ouais, s'il y avait du thermomix, combien on aurait évité de disputes dans les couples, etc. Blague à part du thermomix, enfin, on réussit, on a des portables, on peut suivre, enfin, on a Internet, on a l'intelligence artificielle. L'homme a l'impression qu'il peut tout réussir techniquement, mais il a tout échoué humainement. Il n'y a jamais eu autant de personnes seules. Alors qu'on peut, on est hyper connecté, soi-disant. Donc, connecté, c'est communication, c'est communion. On peut téléphoner à 1000 personnes. On peut téléphoner à 50 personnes en même temps. Il n'y a jamais eu autant de personnes seules, isolées, dans le sentiment de solitude. Et ça, c'est une... Donc, il y a une recherche terrible, une soif. Et c'est une grande question qui est posée à la foi chrétienne. Alors, évidemment, moi, j'ai répondu dans la catéchèse plutôt sous la forme de la foi comme un acte de l'intelligence qui nourrit et qui fait grandir l'être humain tout entier, à la fois son intelligence, sa raison, son amour, son désir, et tout cela est dans un acte unifié, et non pas une séparation entre ce qui est de l'ordre rationnel, et je suis comptable d'un côté, je suis médecin, etc., et de l'autre côté, j'appartiens à une secte où on compte le nombre de, je sais pas, d'anges machins supersoniques qui traversent l'univers. Enfin, on est dans ce qu'on appelle la schizophrénie. Donc l'Église, elle voit pas l'homme comme un schizophrène, mais comme quelqu'un de profondément unifié autour de la foi en Dieu. Question suivante.
Alors, les jeunes sont en quête de réponse face à leur propre existence. Les pratiques occultes, la magie, sont monnaie courante en libre service sur les réseaux sociaux. Comment les protéger? Comment leur donner la foi?
La foi, merci pour la question. La foi est une expérience. Benoît XVI encore, qui a souvent été une phrase splendide qu'il faut connaître par cœur. C'est une de ces phrases qui va marquer l'histoire de l'humanité. Il dit à l'origine du fait d'être chrétien, donc c'est dans Deus Caritas Est, Dieu est amour. Sa première encyclique. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une éthique, un choix éthique, c'est-à-dire un choix moral. Tu regardes la doctrine chrétienne, tu lis l'évangile, tu dis « Ah ouais, Jésus a raison. Hein. Jésus a raison, l'adultère, c'est pas bien. Jésus a raison, il faut aimer son prochain. Jésus a raison. » C'est pas ça, la foi chrétienne, d'abord. Même des gens complètement païens sont d'accord avec ce qu'enseigne Jésus. C'est même à la limite, même les démons. Par contre, la foi chrétienne, c'est une rencontre avec Jésus. Et la question, et là, c'est pas magique non plus. C'est-à-dire qu'on peut pas appuyer sur, autant je peux faire du catéchisme à un enfant et lui dire que Jésus est né, qu'il a souffert pour moi, lui annoncer ce qu'on appelle le kérigme, le Fils de Dieu, lui annoncer, c'est-à-dire lui dire ce que je crois, lui témoigner et lui enseigner de ce que je crois. Le Fils de Dieu, le Verbe éternel, s'est appris chair dans le sein de la Vierge Marie, il s'est fait homme par l'action de l'Esprit-Saint. Il a vécu parmi nous, il a vécu notre vie, il a annoncé la foi, il a annoncé le royaume de Dieu, il a été condamné, il a suivi sa passion, il est mort sur la croix, il a été enterré, enseveli, et le troisième jour, il est ressuscité. Il est monté aux cieux et il reviendra pour juger les vivants et les morts. Ça, c'est la foi chrétienne, ce qu'on appelle l'annonce de la foi, le kérigme, le fondement même de toute la foi des chrétiens. Mais, une fois que j'ai dit ça à un jeune, d'abord je lui dis, quand il est en CM2, il y croit, enfin il est d'accord, mais quand il grandit, il y a d'autres questions qui viennent se poser à lui dans sa petite vie, surtout qu'il y a Internet, la télé, les médias, les copains, les machins, ce qui est normal, ce qui est même une très bonne chose. Est-ce que je lui ai transmis l'intelligence de la foi, la capacité de poser des questions, de se poser des questions et de poser des questions à l'Église, c'est-à-dire à ses parents, en premier normalement, mais enfin, ou à ses catéchistes, animateurs, à la parole de Dieu, à la Bible, est-ce que je lui dis, au contraire, la foi chrétienne, et c'est ce que j'explique moi, je me bats pour ça quand j'encontre des jeunes, la première chose c'est que tu poses des questions, parce que l'ésotérisme se nourrit du en bas feuille, du ténébreux, de ce qui est caché. Donc, surtout les garçons, par exemple, qui, quand ils ont une souffrance ou une question, ne posent pas la question. Les filles un peu plus, ne serait-ce qu'entre elles. Et on voit certains jeunes, je vous donne un exemple très bête. Je faisais des camps pour des jeunes chefs scouts quand j'étais en France. Des garçons, jeunes adultes, la plupart du temps. Et le thème que moi, j'étais censé aborder avec eux, c'était simplement la sexualité. Donc, leur montrer comment la sexualité vue par Dieu et l'Église est lumineuse, qu'elle est belle, que le corps humain, le corps de la femme, le corps de l'homme est une beauté que Dieu a voulu pour l'amour et non pas pour la domination, etc. Et non pas pour condamner les pratiques de pornographie, etc., pour leur dire ça c'est mal, ça c'est bien. C'était pas du tout mon propos. Mon propos, c'est de montrer la beauté, justement. Vous voyez comment je pourrais dire, voilà, ça, c'est pas bien, ça, c'est un péché. C'était pas ça du tout. L'idée, regardez, le projet que Dieu a sur vous, eh bien, les parents nous appelaient après pour dire, mais qu'est-ce que vous avez fait à nos enfants? Ils vont à la messe tous les dimanches maintenant. Parce qu'ils ont compris ce qu'ils avaient, mais ils n'en avaient jamais parlé, parfois. On n'en parle pas aux parents, par timidité, etc. Et voyez, donc, nous, pour protéger nos enfants, c'est de mettre de la lumière dans leur vie et leur apprendre à allumer la lumière. Sinon, ils marcheront dans les ténèbres et ils vont se cogner sur les meubles de ce monde. Et certains vont exploiter le fait qu'ils recherchent une direction dans une pénombre. Et si la foi chrétienne n'est pas annoncée, n'est pas vécue par les chrétiens comme une lumière, eh bien à ce moment-là, et ça c'est tout un art pour les éducateurs chrétiens, les parents, de savoir inviter nos jeunes à poser des questions, à mettre sur la table, à utiliser leurs doutes pour pouvoir grandir dans la foi. Sinon, d'autres vont utiliser le doute pour les amener vers la ténèbre. C'est ça, en tout cas de notre point de vue. Après, ça appartient au mystère de chaque être humain. Un garçon, une fois qu'il m'a posé la question, il me dit « Pourquoi tu as la foi et pas moi ?» Et il m'a dit « Parce qu'un jour, j'avais 11 ans, je me suis posé la question « Est-ce que Dieu existe ?» Je me suis dit « Non. » Et puis, il n'est pas allé plus loin. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que moi-même, à 11 ans, je m'étais posé la même question. Ou plutôt, quelqu'un m'avait posé peut-être la question. Et là, j'avais regardé l'autre dans les yeux, j'avais dit « Oui, Dieu existe. » Parce que je l'ai rencontré. Et je ne le savais pas à ce moment-là, je n'avais pas pris conscience. C'est pas le catéchisme qui m'avait convaincu. C'est l'expérience de la prière et du silence que j'avais faite tout à fait par hasard. Question suivante.
Alors, bonsoir mon père, je voulais savoir en quoi la lumière du Christ apporte-t-elle une réponse à la recherche de puissance ou de protection que beaucoup cherchent dans l'occultisme.
Alors, tout à fait, tu es au cœur du Schmilblick, de la catéchèse, sur ce retour en force, et puis surtout du thème de nos catéchèses. On va scruter les signes des temps, on voit que beaucoup d'hommes, comme tu dis dans ta question, recherchent des réponses. En soi, ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose, cette recherche. Faut même dire, ah, c'est bien, tu recherches. Maintenant, on va te montrer un chemin. Et le chemin du Christ, c'est celui de l'unité profonde de l'homme. C'est celui de la vérité. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur que la parole de Dieu se mêle au bavardage du monde, parce qu'elle, elle dit une vérité éternelle. Bien sûr, on a l'impression que quand on prêche à la radio ou sur Internet, comme on est en train de le faire, il y a tellement de personnes qui font des milliers de vues de plus que nous, etc. Mais en même temps, ce que nous annonçons, c'est une vérité qui correspond vraiment à ce qu'est l'homme et ce que recherche l'homme. Donc à un moment donné, la personne va tomber dessus, plutôt son âme va adhérer, va épouser, va trouver la réponse. Et on a tellement de témoignages de personnes qui disent « Mais c'est ça que je recherchais, parfois depuis des années, des décennies. » C'est pour ça que nous devons prêcher, comme dit Saint Paul à Timothée, je crois, à temps et à contre-temps. N'arrête, ne te décourage pas dans la prédication. Ne te décourage pas dans le témoignage. Il faut apprendre aux fidèles à témoigner. On n'a pas besoin de maître, ni d'avocat. Dieu n'a pas besoin d'un avocat pour le défendre. Il a besoin de témoins. Il a besoin de témoins qui viennent dire, moi j'ai rencontré Jésus, et voilà ce qui est arrivé dans ma vie. Et quand on entend des témoignages, on dit, ah oui, mais moi aussi, on entend des grandes conversions, mais aussi des témoignages, moi je ne suis pas un grand converti, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mais c'est mon témoignage à moi. C'est comme ça que j'ai rencontré Jésus. Donc on a besoin de témoins. Les jeunes de ton âge ont besoin de témoins de ton âge aussi. C'est bien que des plus âgés témoignent, etc. Mais on a besoin de témoins qui nous correspondent, qui nous ressemblent et qui viennent mettre à portée de notre vie la foi chrétienne. C'est exactement ce que Dieu a voulu. C'est ce que je suis en train de vous décrire, c'est ce que Dieu a voulu. Dieu n'a pas donné une Bible. Le Seigneur, encore une fois, n'a pas écrit de Bible. Nos frères protestants évangéliques en particulier nous ont fait croire, et il faut faire attention à ça, je le dis souvent, que la religion est née de la Bible. Donc souvent on dit « Ah mais c'est pas dans l'Écriture ». Mais la religion n'est pas née de la Bible. Elle est née du Christ, de quelqu'un qui n'a pas écrit de Bible. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a fait ce que je suis en train de faire avec vous. Il a enseigné, il a pris ses apôtres et leur a enseigné. Et ce qu'il nous a donné, ce qu'il a donné au monde, c'est pas un livre, c'est une communauté de frères et de sœurs. Parce qu'il y a des femmes, il y a Marie au centre et quelques femmes, dont qu'il a constitué comme témoins. Marie-Madeleine et d'autres femmes, Priscilla, etc. Et puis les apôtres et d'autres encore, Barnabé, Paul, Luc, Marc, etc. Et c'est eux qui sont allés témoigner dans le monde entier. Ce n'est des années après qu'ils ont mis les choses par écrit, et c'est des siècles après, enfin pas des siècles et des siècles, c'est deux siècles après qu'on a rassemblé tous les écrits pour en faire un livre qu'on appelle la Bible. Mais au début, et c'est encore valable aujourd'hui, ce n'est pas un livre. Même si, par exemple, pour nos frères musulmans, lire un Nouveau Testament, lire une Bible, et je comprends que dans certains pays musulmans, on interdise la Bible. Ils ont raison, parce que comme ils ont un rapport à l'écriture, nos frères juifs aussi, très fort, donc l'écriture est un moyen merveilleux, pour nous aussi d'ailleurs, de rencontrer le Christ. Donc certaines personnes, en lisant la Bible, rencontrent le Christ. Mais comme dit Jésus, tu ne me cherches pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé dans ton cœur, en fait. Parce que le Christ est déjà inscrit dans le cœur des hommes. C'est pour ça qu'il ne faut pas, encore une fois, je le dis, avoir peur de mélanger la parole de Dieu, le témoignage des chrétiens, au milieu de tous les bavardages et de toutes les bêtises qu'on trouve vraies ou fausses, je n'ai pas à en juger, sur Internet ou dans la culture. Parce que la parole de Dieu, elle correspond à quelque chose qui est déjà, dans chaque être humain, dans chaque cœur humain, il y a une semence, il y a un désir du Christ. Même, prendre l'être humain le plus ténébreux, le plus sombre, le plus enfoncé dans l'ésotérisme, j'en ai connu. À un moment donné, la lumière du Christ débarque. Regardez Marie-Madeleine, le Christ lui a enlevé 7 démons. Donc, il était bien fond. Ou le bon larron sur la croix. À un moment donné, le Christ démarque et la lumière du Christ vient dans les ténèbres les plus profondes, justement. Et d'ailleurs, c'est même mieux que ceux qui se croient dans la lumière, comme les pharisiens, qui, eux, par contre, restent dans une sorte de ténèbre. Une ténèbre à moitié lumineuse, c'est encore pire. Comme dit l'Apocalypse, tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède. Mieux vaut être bien froid, bien loin du Christ, parce que quand la lumière du Christ arrive, par un témoin. Donc, encore une fois, pour répondre à ta question, ce sont les témoins, l'Église est là pour témoigner. Normalement, à la messe dimanche, quand le prêtre dit « Allez dans la paix du Christ », allez, la messe, c'est la mission. La messe, d'ailleurs, c'est de la mission. C'est la mission. C'est là qu'on va, on devrait sortir tous le dimanche et aller annoncer l'Évangile pendant toute la journée. Aller dire « Le Christ est vivant, j'ai mangé son corps ce matin, j'ai entendu sa parole, j'ai partagé avec mes frères. » C'est ça qui va toucher, parce que c'est ce que les hommes attendent, en fait, en réalité. Et nous aussi. Et quel dommage que nous venons à la messe et qu'il y a une soupe à la grimace, que nous venons à la messe et que c'est froid. Alors, je parle pas des chants, hein, c'est pas parce que les chants sont ouélélé que la messe est fraternelle. Mais est-ce que le rassemblement des chrétiens, est-ce que le témoignage que nous donnons personnellement et en église est un témoignage qui est vraiment celui du kérigme, de l'annonce du Christ qui est venu apporter le salut aux hommes? Et je veux te dire une dernière chose, Dieu n'est pas simplement notre sauveur, après il veut être aussi notre Seigneur. Parce que tout le monde est prêt à ce que Jésus soit son sauveur. On est malade du cœur, du corps, des relations, on est malade. On a besoin d'être sauvé. Donc, en moi, au secours, SOS. Donc, n'importe qui me sauve, ok. Jésus, pourquoi pas. Mais le jour où Jésus te dit, ok, je ne suis pas simplement venu là pour te sauver, je veux être ton Seigneur, celui qui guide ta vie. Alors, à ce moment-là, là, c'est un témoignage. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Qui a fait le ciel et la terre.
Merci à Saint-Joseph.